Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, ce dimanche 25 septembre, passage à niveau à votre compagnie jusqu'à 14h et je rappelle l'émission à une rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h et voilà le menu. On va commencer pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe ici au niveau de la région parisienne. Dans les transports, apparemment, il manque des machinistes, il manque également des chauffeurs, etc. etc. Il y a de moins en moins de bus et pas seulement. Et quelle est la situation dans les lycées? C'est ça qu'on va savoir dans quelques instants avec Mme Céline Malaisé, présidente du groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne. Après, on parlera du forum d'affaires Portugal, ce sera le 29 septembre dans le Sénat. Et encore dans le cadre de l'expo de peinture modernité portugaise, on va avoir une conférence sur le grand poète portugais Fernando Pessoa, ce sera le 1er octobre et tout ça à la maison Caillebotte hier. Et après, on aura un chanteur, interprète, compositeur, et je veux parler de Sceaux, je suis. En effet, il va être en concert le 30 septembre, sans parler le Grand Soir 2, une installation ludique, artistique et comestible. On va savoir qu'est-ce qui se passe avec J.M. Simon, et un peu plus tard, en livre Terre Fria de Anne-Marie Torche, édition La Grange Batellière. Mais déjà, Mme Céline Malaisé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer évidemment par la situation dans les lycées. Bon, il y a eu le Conseil régional d'Île-de-France s'est réuni le 22 septembre, sa commission permanente le 23. Qu'est-ce qui se passe au niveau des lycées, puisque votre groupe parle d'une mauvaise gestion de Valérie Pécresse, la présidente de la région, et plus encore hold-up dans les caisses des lycées. Mais déjà, qu'est-ce que vous critiquez? Ça concerne justement la gestion de Madame Pécresse au niveau des lycées.
La gestion de Mme Pécresse dans les lycées depuis qu'elle est arrivée aux affaires en 2016 est une gestion un peu au fil de l'eau. Quelques inaugurations où il y a une mise en scène et puis en réalité la situation dans les lycées se dégrade. Je prendrai un exemple. À la rentrée à l'internat de Villeneuve-Saint-Georges, les lycéens n'ont pas pu finalement dormir dans cet internat parce que les travaux n'étaient pas terminés. Il leur a été dit que les choses allaient se régler pour le mois d'octobre et là on est plutôt sur le mois de novembre. Mais en fait, c'est un peu l'image de ce que fait la droite régionale dans les lycées. C'est des choses qui durent plus longtemps que prévu. Un discours qui est un discours de très 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 opaque vis-à-vis des communautés éducatives. Et puis finalement des élèves et des communautés éducatives, des personnels, des professeurs qui doivent travailler et étudier dans des conditions qui sont de plus en plus dégradées. S'ajoute à ça bien évidemment la politique au niveau national qui dégrade aussi l'éducation. Donc ça c'est quelque chose qui est assez régulier. Alors il n'y a pas que nous qui le disons. La Chambre régionale des comptes a fait un rapport assez catastrophique sur la gestion de Valérie Pécresse dans les lycées l'année dernière. Et il disait que sur 100 euros promis, seulement 25 euros finalement étaient réellement utilisés et mis en pratique dans les lycées franciliens.
Mais l'autre argent, il est parti où?
Alors l'autre argent, en fait, il est promis et puis comme les choses prennent trop de temps, il n'est pas encore utilisé. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Puis après, la nouveauté, c'est ce qui a été voté jeudi en conseil régional, comme vous le disiez. Nous, on parle de hold-up. Les syndicats d'établissements expliquent que les lycées ont été détroussés. Donc en gros, la région donne ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement dans les lycées, ce qui permet à chaque établissement de voir un budget. C'est quelque chose qui est calculé en fonction des effectifs des élèves, en fonction de la superficie des établissements scolaires, en fonction de chaque lycée et de leur spécificité. Et là, le petit tour de passe-passe que Valérie Pécresse met en œuvre pour la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2023, c'est qu'elle considère que les établissements ont trop ce qu'on appelle de fonds de roulement, ce que les lycées, eux, appellent des fonds de réserve, et elle veut ponctionner sur ces fonds de réserve. Donc, elle vient de faire voter une somme qui ne sera pas la somme réelle que les lycées vont retenir. Et dans la somme qu'elle a fait voter, déjà, c'était pas l'augmentation n'était pas à la hauteur de l'augmentation de l'inflation. Donc les lycées vont perdre une somme considérable d'argent, ce qui va rendre leur fonctionnement au quotidien extrêmement compliqué.
Mais Madame Lézer, ça n'empêche que bon, il y a quelques jours, ça a été publié par la Régie de France, lycée 2 points, hein, je lis. Une rentrée sous le signe du pouvoir d'achat pour les familles franciliennes. Ordinateurs, fournitures, transports, repas, etc., etc.
Alors, ordinateur, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis longtemps, qui prend la suite de ce qu'on appelait la gratuité des manuels. Donc, comme il n'y a plus de manuels papier maintenant, il faut fournir aux élèves l'ordinateur, d'ailleurs, qui est quand même qui fonctionne pas très bien, voilà, pour pouvoir lire les manuels numériques quand c'est possible. Et puis, sur la cantine, hein, sur la restauration scolaire, la droite régionale avait dit qu'elle mettait en place un bouclier zéro inflation, donc pas d'augmentation de la facture pour les familles. Et en réalité, ce coût-là n'est pas encore financé. Donc ce sont les établissements jusqu'à la fin de l'année qui doivent prendre en charge
le surplus. Ouais.
Voilà, et on leur demandera en même temps, enfin la droite va leur demander en même temps pour l'année prochaine, de baisser leur fonds de roulement. Donc les établissements vont se retrouver dans une situation assez difficile financièrement. Et pour l'instant, jusqu'en décembre, on sait que la facture n'augmentera pas, mais à partir de janvier, nous ne savons pas de quelle manière la région va financer. Et c'est pour vous dire les choses, vous avez des villes qui veulent financer des projets, qui sont des projets de recyclage des déchets, etc. Et la région se retourne vers elle en leur disant « ça va pas être possible parce que vous savez, nous on doit faire des économies parce qu'il faut qu'on finance notre bouclier zéro inflation dans les lycées ». Donc en fait, les choses ne sont pas garanties. Voilà. Donc il y a des annonces, comme toujours, beaucoup de communication.
Mais
et puis dans le fait, nous, notre crainte, c'est que les choses se passent différemment. Et puis, comme on a une expérience assez longue de Valérie Pécresse et de la droite régionale, on sait souvent qu'entre la communication et la réalité, il y a un gros, gros fossé.
Bon, on verra bien, parce que dans un temps, il manque des professeurs aussi. Bon, mais ça concerne pas la région, ça, ouais. C'est le gouvernement.
Alors, mais il manque des personnels de région aussi dans les lycées. Et ça concerne la région. Il y a des établissements qui n'arrivent pas à bien fonctionner. Ce serait pour la restauration scolaire, pour le ménage, etc. Parce que il manque plus de 1000 postes. Voilà, plus de 1000 postes qui ne sont pas pourvus. Et donc, il faudrait embaucher. Mais ça, la droite régionale s'y refuse.
Ouais, toute
elle
façon,
préfère avoir recours à l'intérim.
Voilà, de toute façon, il y a trop de fonctionnaires, même ce sont territoriaux. Je passe à l'expression. Hein. Alors, parlons des transports, parce que vous avez lancé une pétition. Je veux des transports en commun, des qualités et en Île-de-France. Alors, ça fait déjà plusieurs mois que vous dénoncez, entre autres choses, la suppression d'environ 1200 courses sur le seul réseau du bus RATP, une offre réduite de 150 lignes de bus, 13 de métro et sur les RER C, D et E. Donc cette pétition a été lancée, je crois, que le 6 septembre.
Tout à fait. Nous avons lancé une pétition parce que en octobre dernier, la droite régionale a fait voter une baisse de l'offre. Donc sur plus de 150 lignes de bus, 13 lignes de métro, 3 lignes de RER. Et donc aujourd'hui, les usagers se rendent compte de manière de plus en plus importante qu'au quotidien, ça devient un calvaire de se déplacer avec les transports en commun en Île-de-France. Les délais d'attente aux arrêts de bus sont considérables. Et puis, on a des retards en cascade. Et donc, cette aggravation des difficultés des usagers dans leur trajet quotidien, nous alertons déjà depuis longtemps. Alors, nous ne sommes pas les seuls. Hein, les syndicats, à la fois de salariés des organismes de transport, ont alerté. Également, les associations d'usagers. On avait écrit il y a quelques mois une lettre avec une grosse centaine d'élus à destination de Valérie Pécresse pour lui dire que ça suffisait. Les associations d'usagers avaient fait la même chose et pourtant rien n'a changé. Au contraire, les choses se sont empirées. Donc nous, on a lancé une pétition dans un contexte en plus où il y avait possiblement une hausse annuelle des tarifs qui était à l'étude. Entre le moment où on l'a lancé et puis aujourd'hui, Valérie Pécresse a fait une interview en disant qu'elle était en train d'étudier la hausse du prix du Navigo. dans une situation où les usagers à la fois payent pour un service
oui,
mais, et on leur demande de payer plus.
Mais Madame Arizé, par contre, Madame Pécresse a demandé aussi à que certain nombre d'identités, déjà les RATP et la SNCF, parce qu'ils font du bénéfice avec les transports, etc. Elle a demandé aussi que d'autres, les départements autour, etc., participent justement parce qu'apparemment il manque dans les 700 ou 800 millions d'euros.
Alors, il manque, ce qui est calculé, c'est à peu près 950 millions d'euros.
Ouais.
La situation financière qui est difficile hein, dans les transports en Île-de-France est connue depuis 2020. En fait, c'est quelque chose qui a été accéléré avec la période du Covid. Mais comme Valérie Pécresse, pendant un an, avait la tête tournée ailleurs dans son aventure présidentielle, elle n'a pas pris les choses à bras-le-corps. Et aujourd'hui, elle se retrouve devant un mur. Donc, elle demande un petit peu à tout le monde de l'argent, à des départements, par exemple, mais les départements ont des finances qui sont déjà très contraintes. Le Val-de-Marne va avoir du mal à mettre au bout parce que les départements ont des dépenses sociales et comme la crise est très importante, ils vont plutôt se concentrer sur les dépenses sociales. Elle demande à la RATP et à la SNCF, sauf que la RATP et la SNCF, ça fait des années qu'en préparation de la privatisation et de l'ouverture à la concurrence, on leur demande déjà de faire des économies, notamment des économies sur les personnels. Ce qui explique en grande partie aussi la situation dans les bus et dans les métros. On n'a pas suffisamment
de machinistes, de conducteurs.
Voilà, de conducteurs, de machinistes, en fait d'agents des transports. Parce que la baisse, les économies à faire se sont faites en fait sur les conditions de travail en grande partie.
Madame Arizé, parallèlement, vous avez dénoncé aussi, il y a quelques mois auparavant, une privatisation petit à petit, ça concerne notamment la RATP. Ça veut dire que c'est en marche, ça ou est-ce
en marche. C'est en marche. L'ouverture à la concurrence des bassins de la RATP a été votée. Et pour que la RATP soit compétitive dans le cadre des marchés qui sont ouverts, la RATP en fait va baisser le coût sur la masse salariale. Elle fait passer ses agents d'un contrat de droit public à un contrat de droit privé. Elle a augmenté leur temps de travail d'une petite heure chaque jour. Aujourd'hui, il y a plein de graisses perlées, par exemple à la RATP dont on parle très peu parce que les conducteurs ont vu leur temps de travail augmenter avec un salaire qui est resté le même, ce qui est inacceptable en réalité. Et donc on a une grande partie, on a de plus en plus de démissions dans cette entreprise qui était avant une entreprise très attractive où beaucoup postulaient parce que c'était un métier certes avec des horaires qui étaient des horaires compliqués pour avoir une vie de famille en parallèle, mais c'était un métier qui était vu comme prestigieux. Aujourd'hui, c'est un métier qui est dégradé, qui méprise à la fois les conducteurs, qui méprise aussi bien évidemment les usagers, et on voit finalement que c'est un chaos qui est organisé en vue de l'ouverture à la concurrence. Avec un dumping social sur les agents.
Mais Madame Balizé, on parle de Transved, par exemple. Transved, c'est une filiale de la SNCF. SNCF, que je sache pour le moment, c'est encore une entreprise publique.
Alors, ce sont des entreprises publiques, mais qui ont ouvert des filiales de droit privé pour postuler dans l'ouverture à la concurrence. Et donc, en fait, les gens qui travaillent dans ces filiales de droit privé travaillent avec des conditions de travail qui n'ont déjà avec un contrat de travail de droit privé, avec des conditions de travail qui sont revues tout le temps à la baisse. Valérie Pécresse a annoncé que grâce au dumping social, parce qu'elle va à la recherche d'économie, elle dit que ça va baisser les coûts de 10%. Alors, ça baisse les coûts de 10%, mais sur le réseau RATP, ça baisse quand même le nombre de courses de 25%, ce qui est un problème pour les usagers.
Et par rapport à privatisation ou pas, on a l'exemple de l'Angleterre. Ils avaient privatisé les chemins de fer, maintenant ils sont en train de les renationaliser. Une dernière question, Madame Alizé. Coupe du monde de football, au Qatar. Je cite, la région la plus riche d'Europe reste passive face aux drames humains. Qu'est-ce que vous vouliez exactement de la part de la région Île-de-France?
On ne peut pas rester les yeux fermés sur ce qui s'est passé au Qatar et ce qui va se passer dans la Coupe du Monde. Beaucoup ont lancé l'alerte. Eric Cantona a dit que c'est une aberration écologique et un drame humain puisqu'il y a 6500 travailleurs, souvent migrants, qui sont morts pendant les travaux pour construire les stades. Il y a la question du boycott qui monte de plus en plus. Nous, ce qu'on a demandé à la droite régionale, c'était de faire en sorte que la région ne fasse ne finance aucune action qui fasse la promotion de cette Coupe du Monde et n'envoie pas d'élus ou d'agents lors de cette Coupe du Monde du Qatar. C'était quelque chose d'assez simple, assez mesuré comme demande. Ça n'a pas été accepté par la droite régionale. Elle refuse même d'avoir un avis sur la Coupe du Monde de Qatar. Du Qatar, ce qui nous semble assez aberrant, puisque la région la plus riche d'Europe, normalement, pourrait dire quelque chose sur à la fois cette aberration écologique et surtout sur ce drame humain, et puis sur un événement qui se passe dans un pays qui est un pays autoritaire, qui est un pays qui bafoue les droits humains. Mais la présidente de région n'a pas voulu prendre même la parole sur cette question-là. Elle a refusé.
Il faut dire aussi que quand on a attribué la Coupe du Monde au Qatar, et qui sait qui était à la manœuvre, c'était à Paris, à l'Élysée. Voilà.
C'était ce qu'on leur a dit. On leur a dit qu'on savait qu'ils étaient dans une position compliquée, puisque Nicolas Sarkozy avait œuvré pour que le Qatar ait la Coupe du Monde, et que c'était leur famille politique. Sauf que c'était il y a quelques années, on aurait pu imaginer une certaine prise de conscience de la part de certains élus de la droite régionale, ce qui n'est pas le cas.
Mais vous pouvez comprendre que ceux qui aiment le foot, ils aimeraient bien suivre les matchs, notamment de la sélection française.
Oui, alors après, il y a à la fois amateurs de foot, spectateurs de foot, je comprends tout à fait, évidemment. Sauf que là, on s'adresse à des responsables politiques et à des élus. Et donc, en tant qu'élus, on a des responsabilités d'intervenir dans les débats de société et de prendre position. Voilà. Moi, comme citoyenne, ça m'interroge aussi. Comme élue, je considère que, puisque je suis élue de la région Île-de-France, il faut que la région Île-de-France dise quelque chose sur ce qui est en train de se passer. Qu'elle ne fait pas. Après, comme amatrice de foot, écoutez, chacun doit se débrouiller avec sa conscience, ce qui est compliqué, mais c'est pas le même positionnement politique, me semble-t-il.
Madame Céline Malaisé, je rappelle, vous êtes présidente du groupe gauche communiste, écologiste et citoyenne. Dernière question, et brièvement, je pense qu'au mois de janvier, vous avez alerté avec la quadrature du net au sujet du financement régional des drones policiers. Est-ce que ça a avancé, ça n'a pas avancé, ou est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Alors, ça a considérablement avancé. La droite régionale proposait 300 000 euros pour participer à l'équipement en drone des polices municipales. On leur avait dit au mois de décembre 2021, quand ils ont fait cette proposition, que c'était anticonstitutionnel. Ils sont passés outre, ils ont fait voter. Le Conseil constitutionnel en janvier 2022 a rappelé que ça n'était pas constitutionnel. Ces 300 000 euros ne sont donc pas utilisés. Donc nous avons gagné avec la quadrature du net, mais l'affaire se poursuit toujours devant le tribunal administratif, puisque l'argent est mis de côté, n'est pas utilisé pour ça, mais on aimerait que le tribunal administratif prenne une décision qui nous soit favorable, mais surtout soit favorable à la population pour que elle ne soit pas espionnée par ces drones des polices municipales, si c'était possible.
Mais parallèlement, il y avait les intentions aussi de Mme Pécresse de créer un genre de force de sécurité au niveau de la région, même qui pouvait surveiller les lycées, tout ça. C'est tombé à l'eau?
Alors, le préfet s'en est mêlé, a fait un rappel à la loi, à la région. La région a répondu. Alors, tout ça est toujours dans le domaine du gracieux. Le préfet est venu avant l'été à la région. Nous lui avons posé la question. Il a éludé. Sauf que le cadre légal est toujours le même. Et donc, ces brigades régionales de sécurité dans les lycées sont des brigades régionales qui ne devraient pas être présente, puisque la région n'a aucune compétence en matière de sécurité. Elle a des compétences en matière de médiation, de prévention des conflits. On va être très vigilant. On alerte à chaque fois le préfet, qui a d'ailleurs repris nos alertes. Il semblerait que la droite régionale veuille augmenter le volant, mais bon, on verra. Mais après, il y a des départements, par exemple le département du Val-de-Marne, qui s'est déjà mis en conformité et qui voulait mettre en place des brigades départementales dans les collèges, mais qui leur a assigné seulement la mission de médiation et de prévention, et plus des missions de sécurité. Et donc ça peut être dans les clous, mais ce que fait la droite régionale, ça ne l'est pas.
Mais ça ne va pas remplacer ce qu'on appelait les pions dans le temps. Parce qu'il y avait tout un encadrement au niveau des lycées, pas seulement.
Oui, alors en plus, les rectorats ont des brigades. On des brigades dans les lycées, donc ça faisait doublon avec, ça fait toujours doublon avec les brigades régionales de Pécresse. Mais bon, les choses pour l'instant là sont en suspens, mais les choses prennent du temps. Mais bon, écoutez, nous voulons faire respecter l'état de droit en Île-de-France, donc on va poursuivre nos démarches.
Merci, nous on va suivre ça de près aussi. Je rappelle Madame Céline Malaisé, présidente du groupe Gauche communiste écologiste et citoyenne. Merci, à bientôt.
Merci à vous, à très bientôt, au revoir.
Já há meses, e vamos falar pelo menos até o final do mês de outubro, da temporada cruzada França-Portugal. Ora, não é só cultura, não é gastronomia, mas é igualmente economia. Isto vem tudo a propósito do Forum des Affaires Portugal, dia 29 de setembro, no Senado francês. Eduardo Henriques, antes de mais, muito bom dia e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Bom dia.
Lembro, é diretor do AICEP, Conselho Económico e Comercial junto à Embaixada de Portugal em Paris, e a nossa conversa de hoje vai ser sobre o Fórum des Affaires Portugal na quinta-feira, dia 29 de setembro, no Senado. A referir que esta iniciativa é feita igualmente no quadro da temporada França-Portugal, não é?
Exatamente. É uma iniciativa do nosso congênero, que é a Business France, que é o organismo que é o correspondente da AICEP em França. E, de facto, é uma manifestação dentro da temporada cruzada entre Portugal e França. Mais uma, entre muitas.
Entre muitas, com efeito. Vão ser abordados um certo número de temas, nomeadamente o plano de relance e de resiliência que foi avançado e foi aplicado pelo governo português. Consiste em que exatamente este plano? Se nos pode dar uma...
Bom, enfim, há muitas atividades, melhor, muitos projetos que estão em curso e, portanto, o plano é um plano há vários anos e a ideia é, enfim, é contribuir para aquilo que é a transição energética portuguesa e obviamente, inclui variadíssimas áreas, desde as infraestruturas até às energias renováveis, etc, etc, etc. Portanto, há aqui imensas atividades e será um dos pontos, como diz, entre outros.
Sim, entre outros, porque com efeito vai-se falar da situação económica em Portugal e os setores que estão em plena mutação. Ora, quando se fala de plena mutação, será que podemos falar da transição climática e numérica também?
Tudo isso está ligado, é verdade. Nós, em Portugal, temos nos últimos anos evoluído muito, sobretudo naquilo que se pode chamar na transição energética, fomos pioneiros e somos ainda em muitas áreas, por exemplo, nas energias renováveis, e Portugal tem dado cartas nesta matéria e tem muitas empresas que trabalham nesta matéria. Eu acho que aí temos um espaço, inclusivamente, de grande possibilidade de cooperação com França, e aliás há vários casos em que isso já acontece, mas para futuro muito mais. Mas além disso, é evidente que ao longo destes anos Portugal tem sido um país muito interessante para o desenvolvimento de soluções inovadoras nas mais variadas áreas, que obviamente também aproveitam e podem aproveitar os nossos amigos franceses. E, portanto, é um pouco nesta linha que este encontro tem lugar e, obviamente, esperamos que surjam várias parcerias e vários negócios na sequência deste evento.
Eu não sei se posso utilizar a expressão, mas enfim, eu acho que Portugal podia dar lições, entre aspas, evidentemente, à França no capítulo energético, porque Portugal é um dos países da Europa, precisamente onde as energias alternativas e ecológicas existem e são, não digo, já faz, penso eu, à volta de 50% da energia que é consumida em Portugal, corresponde a uma realidade?
É verdade, agora, enfim, não sei se dar lições é um pouco exagerado, mas de qualquer das maneiras, eu acho que a experiência portuguesa é uma boa experiência, é uma experiência que naturalmente pode ser útil também para a França. Há empresas francesas que trabalham em Portugal, e grandes empresas francesas, e portanto que têm este know-how também, e portanto há também, como eu dizia há pouco, várias parcerias que estão em curso, e falo, por exemplo, da Engie com a EDP, etc., e portanto há de facto espaço para crescer. Espaço para crescer também existe, por exemplo, nas novas energias como o hidrogénio. Eu relembro que há sensivelmente um ano organizámos aqui em França um evento com o MEDEF Internacional, a parte do hidrogénio, E os franceses têm um grande interesse na cooperação com Portugal nestas matérias. A França também tem aí, por exemplo, um grande potencial e um conjunto de empresas muito interessantes que já trabalham nesta área. E, portanto, há aqui um espaço do win-win, ou seja, quer de um lado, quer do outro, há boas experiências e eu acho que o que só temos a ganhar é partilhar essas experiências e, sobretudo, concretizar isto em termos de negócio. Isso é que eu acho que é o mais importante sempre.
Mas, precisamente, em termos de negócios, há café com certo número de empresas francesas estão implantadas em Portugal. Eu talvez ressalvava dois setores importantíssimos, a aeronáutica e o automóvel.
Sim, olha, eu acho que a grande vantagem da presença francesa em Portugal é que é uma presença muito diversificada. Vai encontrar empresas de todo o género, de todas as dimensões e praticamente todos os setores. É muito curioso, o ano passado fez-se um inquérito, o INE fez um inquérito às filiais de empresas estrangeiras em Portugal. A França é o país que tem maior número de empresas, neste caso, em Portugal. Os números apontam para cerca de 1.400 empresas francesas instaladas em Portugal. Falou aí do automóvel, falou da aeronáutica, é evidente que sim, são dois setores em que a França está muito presente, mas a França está presente na energia, está presente nas infraestruturas, está presente na agricultura, na agroalimentar, nos serviços, etc, etc. Portanto, a verdade é que o investimento francês em Portugal, que o ano 2021 fechou como o melhor ano sempre, a França praticamente atingiu os valores de Espanha e, portanto, ficou em segundo lugar por muito pouco. A verdade é essa. E tem tendência, e esse também é o nosso desejo, e é por isso que também trabalhamos, é que a França rapidamente se converta no primeiro investidor estrangeiro em Portugal. E eu acho que as condições estão todas lá para que isso aconteça.
Focou o ano de 2021, apesar da Covid e de tudo o que isso implicou?
É verdade. Os números foram muito positivos. E, de facto, o investimento estrangeiro, e neste caso o investimento francês em Portugal, conheceu o melhor ano sempre. Nós temos, aliás, várias tendências no investimento francês em Portugal. Uma delas é isto que eu lhe dizia, diversificação enorme. Temos hoje muito interesse de empresas francesas em se associar a empresas portuguesas. Temos muitos casos de empresas francesas que compram participações em empresas portuguesas. E nos últimos meses temos tido exemplos na área das tecnologias, na área dos serviços para empresas, na área dos moldes, na área da agroindústria, etc. Portanto, é bastante frequente este tipo de coisas. E, portanto, é uma tendência que se está a avolumar. Portanto, que é imune, ou tem sido imune, às peripécias que têm acontecido, nomeadamente à pandemia.
Ora, neste fórum, lembro, Fórum des Affaires Portugal, jeudi 29 de setembro, no Sénat, quer-se dar a conhecer o quê? Aliás, vai haver um certo número de intervenientes que, penso eu, vão mostrar que Portugal pode ser uma fonte de oportunidades para as pequenas e médias empresas francesas.
Exatamente. Eu acho que é um ponto importante esse também, que é as empresas francesas, a grande maioria das grandes empresas francesas já têm operações em Portugal. A verdade é essa. Praticamente todas as empresas do CAC 40 têm algum tipo de presença em Portugal. A tendência que nós notamos cada vez mais é uma tendência para que sejam as empresas mais pequenas, não as mini, nem as muito pequenas empresas, mas as empresas que já têm alguma dimensão, mas que são empresas médias, francesas, que procuram Portugal. Procuram Portugal por vários motivos. Procuram Portugal por uma questão de proximidade. E hoje em dia, sobretudo em termos industriais, é muito importante esse ponto, e a crise do Covid trouxe mais ao de cima essa tendência, que é as empresas francesas procuram fornecedores ou parceiros de proximidade. E Portugal aí pode dar cartas, porque de facto tem essa proximidade com França, e além disso tem qualidade, tem inovação e tem capacidade de resposta. E portanto, é uma tendência que nós estamos a ver desde há algum tempo a esta parte, é que as empresas médias francesas procuram cada vez mais Portugal. E, portanto, este evento é um pouco nessa linha, é para ainda trazer mais empresas que estejam nessas circunstâncias, são empresas médias, procuram crescer, procuram a Europa como destino preferencial, e, portanto, Portugal aí tem todas as condições para ser um parceiro e vital para as empresas francesas. Sim. E é isso que notamos também todos os dias.
Estou lembrado agora de um facto, pode-me confirmar se é verdade ou é mentira, mas enfim, fala-se muito de ecologia. Ora, precisamente, a França está a repatriar, entre aspas, um certo número de fabricações que eram feitas na Ásia e noutros sítios, até para Portugal. Eu estou lembrado agora do setor das bicicletas. É verdade que Portugal, digamos, é o campeão da Europa no que diz respeito...
É verdade. é verdade. Portugal foi o ano passado o primeiro produtor europeu de bicicletas. Esta é uma área, por exemplo, esta é uma área muito interessante de colaboração com França. As nossas empresas têm muito interesse no mercado francês. O mercado francês é um mercado consumidor muito importante e nós desenvolvemos aquilo que chamamos o Bike Valley, que está em Portugal, enfim, na região centro de Portugal, em que existe um conjunto importante de empresas que trabalham nesta área. Esta área, ao contrário do que muitas vezes se pensa, é uma área extremamente inovadora, porque hoje as bicicletas são meios de transporte comuns, em grandes cidades, em pequenas cidades, em todo o lado, em toda a Europa, até por causa das preocupações ecológicas, é uma tendência que temos assistido. E em Portugal fazem-se bicicletas de altíssima qualidade e do melhor que se faz no mundo. E, obviamente, também com todas as valências que são necessárias, sobretudo em termos de respeito pelas regras ecológicas. E, portanto, eu acho que aí temos, e aliás, nós, no nosso trabalho habitual, temos muitos contactos com entidades francesas interessadas em trabalhar com Portugal nesta área.
Mas quando se fala de bicicletas, bicicléticas e elétricas, sim, há o lítio, de maneira que aí há o fabrico de baterias elétricas, talvez seja uma nova pista para Portugal, igualmente?
Bom, é uma questão que ainda está, em estudo e, portanto, não imagino que sim, e é provável que sim, talvez num futuro próximo, sim.
Eduardo Henriques, muito obrigado. Uma última questão. E ao que parece, as empresas já não há procura de muitos luso-descendentes que dominam a língua portuguesa. Bom, eu passo da economia para a educação, mas daí talvez que é um trunfo para esses jovens luso-descendentes de falarem as duas línguas.
É um bom ponto, eu acho que é essencial. Nós temos aqui uma oportunidade imensa para os luso-descendentes. Porquê? Porque, e muitos deles, para trabalharem com Portugal e em Portugal, pelo facto de existirem muitas empresas francesas que procuram exatamente perfis desse género. Ou seja, pessoas que, além da competência técnica, obviamente, tenham essa capacidade linguística de trabalhar nas duas línguas. E hoje em dia, em Portugal, tendo em conta o número tão grande de empresas francesas que se instalam, há uma procura enorme por parte das empresas deste tipo de perfis. Portanto, eu acho que há aqui, e isto é uma constatação que nós fazemos diariamente, temos cada vez mais necessidade de pessoas que dominem as duas línguas, e eu acho que é uma excepcional oportunidade para todos esses jovens que trabalham e vivem, digamos assim, entre as duas culturas. E, portanto, eu acho que há realmente um grande espaço para crescer e para aproveitar.
Não. O recado foi deixado. Eduardo Henriques, muito obrigado. Lembro, é diretor da ICEP, Conselho Económico e Comercial, junto à Embaixada de Portugal em Paris. Muito obrigado e excelente fórum, então, para o dia 29.
Muito obrigado, então. Adeus e um abraço.
E estamos para o outro, entramos na reta final da Passagem de Nível, nesta primeira hora, lembro, emissão, que tem a redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 00h. E lembro que hoje é o último dia de Futão por Portugal, nem mais nem menos, o Festival das Cozinhas, sexta edição deste Futão, que é dedicado inteiramente a Portugal, no que diz respeito ao almoço hoje, o almoço gastronómico, já não há nada para ninguém, na medida em que está completo, mas há toda uma série de ateliês que vão decorrer durante todo este dia. E falamos de pintura, na medida em que, espero bem, vamos falar da exposição Modernité Portuguesa. Lembro que foi inaugurada uma exposição no dia, precisamente, ou vai ser inaugurada uma exposição, se é que é no dia 27 de setembro, onde no Musée de l'Histoire de l'Immigration Porte Dorée, o título 1945-1972, l'art migre à Paris e nulle part ailleurs, onde precisamente encontramos quadros de quem? De Helena Vieira da Silva, entre outros. E já agora, bom, um capítulo completamente diferente, vamos lembrar que Santa Casa da Misericórdia continua a tentar angariar fundos para poder ajudar os portugueses que se encontram com necessidades, e daí vai decorrer a chamada corrida caminhada. Isto será no dia 2 de outubro, como já é hábito, no domínio de la Cour Roland, en Juiz, en Josas, no departamento 78. Podem se inscrever, a inscrição custa 10 euros, não é necessário certificado médico, sem esquecer igualmente que pode almoçar ao folclore, a animação musical, a animação para crianças, igualmente o sorteio também, há coisas a ganhar, e não é necessário certificado médico. Eu lembro, isto é precisamente nem Juiz-les-Joses, no departamento 78, no domínio de la Cour Roland, nem mais nem menos. E já que estou a fazer anúncios, bom, aqui vai mais um, bom, isto está, já está completo, é o caso de dizer, na medida em que se trata da peça Saudade de Ici et là-bas, que foi já representada ontem às 19h no Teatro Clavel. Hoje a segunda representação a partir das 16h30, não há nada para ninguém, com efeito já está tudo ocupado. E sem esquecer igualmente que está... há uma coisa importante para quem gostam de cavalinhos e não só, na medida em que há toda uma animação que é feita no hipódromo de Vincennes, onde Portugal vai haver folclore, vai haver gastronomia, vão haver um certo número de coisas, onde precisamente é uma ocasião de passar um bom dia, ainda está tempo de lá chegar. Entretanto, lembro, continua a patente ao público a exposição Modernité Portuguesa, precisamente na Maison Caillebotte, e só até o dia 30 de outubro, Maison Caillebotte em Hierre. Hierre fica no departamento 91, com certo número de iniciativas. Há que referir que a entrada é gratuita e tem um parque imenso onde poderá passar um dia agradável, até pode arrumar e tudo, porque não, nunca se sabe. E sem esquecer, evidentemente, de ver quadros de pintores, que vai desde o início, vai desde 1900 até praticamente 1980, com a particularidade de todos os artistas que estão lá expostos terem vivido aqui em Paris, e entre eles voltamos a Vieira da Silva e não só a Amadeu de Sousa Cardoso. Esse propósito, ontem havia a projeção do filme Amadeu de Sousa Cardoso, Le Dernier Secret de l'Art Moderne. Alors, justement, autour de l'exposition Modernité Portugaise, j'ai dit hier, projeção de um comentário sobre Amadeu de Sousa Cardoso, e samedi 1er octobre, uma conferência Fernando Pessoa, Patrick Quillier. Monsieur Quillier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, Monsieur Quillier, universitaire, poète, essayiste, professeur de littérature comparée, musicien, compositeur, traducteur et adaptateur du portugais 2. D'abord, merci d'être avec nous à nouveau, parce que c'est grâce à vous qu'on a une anthologie de Fernando Pessoa dans la bibliothèque Pléiade, en édition bilingue. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a marqué, et que pour la poésie portugaise, c'est très important le travail que vous avez mené.
Ben écoutez, merci de tous ces éloges que vous faites, et de ma personne et de mon travail. Oui, c'est quand on est passionné de langue portugaise, de littérature portugaise et de la littérature produite par cet être extraordinaire qu'était Pessoa, bon, c'est du travail, c'est vrai, mais en même temps, c'est aussi beaucoup de satisfaction.
Mmh. Alors, bon, il y a Fernando Pessoa, mais il y a aussi Eugénio de Andrade, Pedro Tamen, António Osório. Bon, revenons à Fernando Pessoa. Donc, une conférence, ce sera le samedi 1er octobre à 15h, conférence gratuite à l'auditorium du CEC, qui se trouve de rue Marc Seigné. Mais ça, c'est à deux pas, je dis bien, c'est à deux pas de la maison Caillebotte, et tout est fléché. Alors, M. Quillier, quand on posait la question à Edouard Lawrence, est-ce que Pessoa, c'est par l'arbre qui cachait la forêt? Et Edouard Lawrence nous regardait, bon, vous voulez dire par là qu'il y a une forêt derrière?
Oui, ça c'est typique de comment dirais-je, de l'esprit de Eduardo, hein, de répondre avec une boutade comme ça. Écoutez, oui, je pense que j'imagine que ce qu'il voulait dire, c'est que Pessoa avait permis de faire entrer en traduction en France, en particulier, cette forêt de poètes portugais qui ont marqué les dernières décennies. Donc ça veut dire que souvent on s'en tenait dans le public français à l'évocation de Pessoa, mais que derrière il y avait effectivement d'autres auteurs, vous en avez cité quelques-uns, qui méritaient d'être lus et qui de fait ont été traduits dans les 30 à 40 dernières années en France.
Mais comment est-ce qu'on peut expliquer, bon ça je pose une question peut-être, je dis pas imbécile, mais en tout cas un peu...
Toutes les questions sont bienvenues, vous inquiétez pas.
Qu'est-ce qui fait que Fernando Pessoa il est incontournable? Que je dis incontournable, c'est dans le bon sens du terme. Comment on peut expliquer justement que quand on parle de poésie, on pense immédiatement à Fernando Pessoa?
Alors, écoutez, moi, ce que je crois, c'est que c'est un cas unique dans l'histoire de la littérature mondiale. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a donc publié des œuvres, signé de noms différents, et ce n'était pas des pseudonymes, c'était, comme il l'appelle lui-même, des hétéronymes, c'est-à-dire des personnalités distinctes. Un peu comme quand un romancier ou un homme de théâtre présente des personnages qui se différencient les uns des autres. Et bien là, c'est un dispositif mis en place pour créer des écrivains qui se connaissent, qui dialoguent entre eux et qui ont chacun un style, une personnalité et parfois des disputes intellectuelles entre eux. Donc si vous voulez ça, c'est un cas unique. C'est un cas unique et du coup, ça ne peut qu'attirer l'attention. Après, il est certain que il est l'auteur d'un certain nombre de poèmes qui méritent de figurer parmi les plus beaux poèmes écrit par les hommes. Hein. Je pense à Tabacarie, par exemple, qui, lorsque la traduction française a paru dans les années 80, le journal Libération avait fait une double page sur le poème en disant le plus beau poème du monde. Hein. Donc voilà, c'est à mon avis une personnalité hors du commun et une œuvre tellement singulière qu'elle ne cessera jamais de nous intriguer, de nous intéresser.
Et d'ailleurs, même le théâtre, maintenant, je pense au nombre des pièces de mises en scène autour du livre de l'intranquillité, ça donne à réfléchir, parce que bon, c'est extraordinaire ce monde, parce qu'il y avait un monde, Fernando Pessoa, il avait, on dirait qu'il vivait dans son monde.
Oui, c'est ça, et qui est un monde d'ailleurs déjà très pluriel et très complexe. Vous mentionnez le livre de l'intranquillité, et ça c'est très intéressant en effet, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'attraction vers Pessoa s'est développée. C'est que ce livre-là a présenté de manière là aussi très originale une façon de vivre à Lisbonne et de vivre Lisbonne, à présenter Lisbonne d'une manière tout à fait pertinente. Quand on a vécu à Lisbonne, on reconnaît ces choses-là en lisant ce livre. Alors donc, ce livre a eu un succès considérable, et pas seulement en France d'ailleurs. Hein. Il a été traduit dans beaucoup de langues et il a toujours suscité, vous l'avez dit, hein, un intérêt chez les lecteurs, mais aussi un intérêt chez les artistes. En particulier, on ne compte pas le nombre d'adaptations au théâtre de ce livre. Et je dirais même que parfois ça a suscité des inspirations chez des musiciens. Il y a une compositrice française qui s'appelle Michèle Reverdy qui, dans les années 90, a écrit un quatuor à cornes qu'elle a appelé le quatuor de l'intranquillité, en hommage à Pessoa. Et, après lecture de ce livre, ça lui a donné l'idée d'évoquer musicalement, à travers son art, ce que Pessoa évoque.
Voilà, cette atmosphère. Moi, je suis né à Lisbonne, mais quelques décennies après que Fernando soit mort, et je peux vous dire que Ruud Schwenkel, j'en passais les meilleurs, ça me disait quelque chose, hein, ces petits troquets, etc., etc. Alors, une dernière question, monsieur Patrick Hillier, vous avez fait un essai, Le gardeur des troupeaux et les autres poèmes d'Robert Geyer.
Oui.
Quelques mots sur ce votre essai, ce travail-là?
Alors écoutez, il est dans une collection qui est destinée aux élèves, aux étudiants et aux professeurs. Hein. Ça s'appelle Foliothèque chez Gallimard.
Tout à fait.
Donc on confie à quelqu'un de présenter un ouvrage. Donc on m'a demandé de présenter Le gardeur de troupeaux. Alors ça m'a permis de présenter Pessoa. Et de présenter tout ce système hétéronymique dont nous avons parlé tout à l'heure, et d'essayer de donner des pistes de lecture pour comprendre ce livre qui, en effet, est fondamental dans toute la production de Pessoa, puisqu'au fond, c'est le livre écrit par celui que Pessoa appelle le maître. Hein, c'est-à-dire, il se considère le disciple de ce personnage, Albert Caer, qu'il a fait naître lui-même. Hein. Donc, c'est Le gardeur de troupeaux, c'est une espèce de traité de poésie moderne, hein, sous forme de poème. Et on a besoin de clés, parfois, pour essayer de comprendre en profondeur un texte qui se comprend à la lecture, bien sûr, sans problème, mais qui pose tout un tas de questions sur le plan philosophique, sur le plan esthétique, et sur le plan poétique, voilà.
Voilà. Bon, je ne vais pas parler de la malle à trésor, parce que j'ai l'impression que bon, on a encore beaucoup beaucoup de choses à connaître,
tirer, oui,
à en tirer,
oui,
de, et, oui, et connaître davantage Fernando Pessoa et sa poésie. Monsieur, oui, Patrick Hillier, merci. Donc, on se donne rendez-vous le samedi 1er octobre à 15h, donc à l'auditorium du COC de rue Marc Seignier, la conférence Fernando Pessoa. Et justement, l'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire. Vous allez sur la maison Caillebotte, vous avez tous les détails. Et alors, ce auditorium se trouve à quelques pas. J'ai bien quelques pas de l'exposition Maison Caillebotte. Monsieur Guillaume, merci.
Et merci à vous infiniment.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir. Merci.
E voltamos aqui ao Direto de Passagem Nível neste domingo, dia 25 de setembro. Vamos dar um soltinho até onde? Lá para os lados do Mirandês, nem mais nem menos. Ainda que, bom, evidentemente, que, meus amigos, quando vivemos aqui não vivemos impunemente. Mas enfim, isto a propósito, je suis. Com um concerto que está agendado para o dia 30 de setembro, mas para já aqui fica um cheirinho, só um cheirinho daqui que vão poder ver no palco. O tema é Je m'attends de Antonio Vivaldi.
Oi. Thank you.
Vivaldi, So, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, Arthur.
Alors, je vais te poser une question. Est-ce que ce Vivaldi entendait cette version? Est-ce qu'il allait reconnaître ses petits?
j'ai pas connu Vivaldi. J'ai très bien connu Jean-Sébastien Bach, mais Vivaldi, je l'ai pas fréquenté, donc je peux pas dire. Mais en tout cas, je me dis que même à Venise, à l'époque où Vivaldi donnait à entendre son œil amateur, toutes ses pièces, sûrement que le profane et le sacré se sont rencontrés, parce que les Italiens sont des bons vivants.
Alors, bon vivant, on peut dire la même chose de toi, puisque bon, alors ces disques, je dis pas que c'est une découverte, mais enfin, ce que ceux qui étaient habitués à tes enregistrements, ils avaient un son. C'est qu'elle est dans des concerts, là, ils se rendaient compte vraiment de l'amplitude des choses, l'orchestration. Et dans ces disques-là, tout à l'heure, on parlera aussi des musiciens qui t'ont accompagné, mais ça, c'est un travail, disons, je dis pas de recherche, mais il y a des chansons qu'on connaît, bon, chansons entre autres de José Afonso, Grandeville Moreno, et pas seulement. On se dit, mais c'est une autre vision de...
Oui, bah, c'est un univers qui est pas du tout recherché, à vrai dire. Le travail, il est recherché dans la réalisation, mais après, l'univers, c'est ce qui sort de mon imaginaire, de ma sensibilité. Grandeville Moreno, c'est moi et ma guitare, avec l'imagination de ce qu'aurait pu faire Zeca Afonso en son temps. Peut-être qu'il a fait ça avec sa guitare, j'en sais rien. Et pour ce qui est après des autres titres, par exemple, l'œil amateur de Vivaldi, c'est... ma manière à moi d'interpréter la rencontre du sacré et du profane, c'est-à-dire de comment dans une même fête le religieux vient se mêler à des rituels plus païens avec la cornemuse, par exemple. Ça, on a un certain nombre d'exemples de Miranda autour de ça.
Alors justement, parlons des références mirandaises, donc la musique traditionnelle. Je pourrais rajouter, José Afonso avec tout ce que cela suppose. Le jazz. Bon, je pourrais continuer comme ça, hein. Et après, on vit pas impunément en France, donc c'est la confluence de toutes ces expériences de...
Tout à fait. Bah, c'est aussi le fruit d'un parcours. Moi, j'ai vraiment une culture populaire portugaise à la base. Je viens effectivement d'à côté de Miranda do Douro. Donc, j'ai reçu en héritage la culture mirandaise à soi par le fait tout simplement de l'éducation de mes parents, et aussi en retournant en été là-bas, j'ai vécu beaucoup de belles expériences autour de la tradition. Ma mère chantait beaucoup de fado à la maison. Elle était chanteuse de fado spontanée, elle chantait très bien. Et puis après, j'ai eu envie de prendre des cours de guitare classique étant enfant. Et puis, en grandissant, je me suis intéressé un peu au jazz, au blues. J'ai fait des études de guitare classique, j'ai fait une formation de blues. J'ai fait beaucoup de stages d'improvisation. Et au bout du compte, ce qu'il en ressort, c'est aujourd'hui non pas un patchwork, parce que je le vois pas comme ça. Je le vois comme une agrégation, quelque chose qui sort de moi c'est le canal que j'utilise, c'est le canal qui vient spontanément quand j'ai envie de dire quelque chose.
Mais au milieu de tout ça, il y a toujours l'homme et de la liberté.
Concept philosophique, l'homme et la liberté. Alors, évidemment, on est tous prisonniers de nos nos pulsions, aussi de nos habitudes culturelles, de la société qui nous entoure, mais aussi, c'est vrai que ce qui m'a touché dans l'œuvre de Zeca Fons, c'est sa spontanéité à aller vers l'autre et à adopter les causes les plus nobles, d'être sensible et de défendre la cause du pauvre, des plus démunis, des ouvriers, évidemment pour la liberté de penser, bien sûr.
Et au milieu de tout ça, faut pas oublier, comme j'ai dit tout à l'heure, on vit passer impunément depuis des décennies, alors il y a l'immigration qui nous marque aussi, qu'on voit pas.
Oui, bien sûr. Alors, moi, je le considère aujourd'hui comme étant une chance. Hier, dans le spectacle Saudade,
ici et là-bas, tout à
fait, le thème de la culpabilité d'être parti, puisque les immigrés de cette époque étaient montrés du doigt par les Portugais qui restaient là-bas. Moi, évidemment, j'ai pas cette culpabilité, mais j'ai pu parfois ressentir, une gêne d'être portugais en France et une gêne d'être français au Portugal. Maintenant, je le sens vraiment et je le ressens pleinement comme une richesse d'avoir une double culture, d'avoir pu bénéficier de tout ce que Paris a pu m'offrir, et en même temps d'être allé progressivement vers un retour vers mes racines dans ces dernières années.
Et bon, de racines un peu plus tard, vers 2h moins le quart, je vais interviewer Anna Maria Torch, et elle vient de publier Terre et Frie, La Grange Batelière. Je cite, c'est elle. Aujourd'hui, j'écris sur un pays qui n'existe plus, celui de mon enfance. Bon, j'avance un petit peu. Réveiller en chacun l'éternel de celui ou de celle qui se terre au plus profond de nos origines pour ne jamais plus perdre. C'était une jeune fille, elle a pas plus de 30 ans.
Oui. C'est déjà mûr, bon. C'est plus une jeune fille à 30 ans, c'est déjà sûrement une jeune femme, mais en tout cas, elle a déjà effectivement la maturité. Moi, ça a été aussi un parcours de vie dans le sens où, il y a environ 4 ans, il y a 10 ans, j'ai commencé à monter ce répertoire. Mais il y a 4 ans, j'ai commencé à me rapprocher de la communauté portugaise à Paris. Et c'était un besoin qui était en lien aussi avec ce que j'exprimais de ma manière de voir le Portugal. Et la rencontre, elle est en train de s'opérer maintenant depuis ces 4 ans avec la communauté portugaise. Mais pas uniquement, puisque mon propos n'est pas portugaliste. Il part du Portugal, de mon Portugal d'ailleurs, ou de mes Portugal, pour aller à la rencontre de tout un chacun. Bien sûr que c'est la question des racines. On les aborde pas de la même manière à l'âge de 10 ans qu'à l'âge de 30 ans ou à l'âge de 50 ans ou plus encore.
Mais le nom de scène, Sceaux, je suis.
Oui, bah c'est une...
Non, ça me fait rappeler l'autre, je pense que j'existe.
je suis, en fin de compte, c'est très simple. C'est vrai que il y a rien de plus simple que de le dire. C'est plus compliqué que de l'être. C'est-à-dire que être soi avec ses contradictions, avec ses multifacettes, avec ses désirs aussi, avec ses aspirations, avec tout ce qui est aussi de l'affirmation auprès de nos proches, des autres. Pour moi, ça a été un travail pour enfin dire je suis et pas plus que les autres ni moins que les autres. Je suis avec mon art simplement.
Auteur, compositeur, interprète. Mais il faut dire que quand on voit pour ces disques, surtout quand tu fais des concerts, t'as tout un tas de gens autour. Finalement, jusqu'à quel point cet homme de musicienne, ils n'encadrent pas ton travail, mais ils te permettent d'aller plus loin comment ça s'est passé? Parce que c'est un travail d'équipe, ce disque.
Oui, complètement. C'est un travail d'équipe. Moi, je suis arrivé avec des arrangements de base. J'ai pas l'aisance d'harmonisation à l'écrit, etc., que certains peuvent avoir dans le groupe. Patricio a contribué à l'arrangement des...
Patricio Lisboa, c'est ça?
Patricio Lisboa, tout à fait, qui est chilien, qui m'a aidé dans ce projet. Alors, il est pas seul, tout le monde a mis vraiment sa patte de manière très importante, sa personnalité, sa vision, Et pour le coup, c'est effectivement le fruit d'un travail collectif dans le sens où je suis parti de cette vision initiale, je l'ai proposée, on m'a fait des contre-propositions, on a fait des enrichissements, on a chacun y est allé aussi avec la connaissance fine de son instrument, et ça a produit effectivement un résultat qui est voilà celui que je désirais dans mon imaginaire au début.
Donc le concert le 30 septembre, j'ai dit à 20h30 au théâtre municipal Brissy-Hermann. Donc ça vaut la peine de nommer les musiciens, justement tous ceux avec qui travailler qu'on va retrouver sur scène.
Bien sûr, Aurore Daniel, c'est une jeune violoncelliste très talentueuse qui a une formation classique très solide, qui joue du classique, mais qui fait aussi beaucoup de choses, du rock. Elle a une curiosité et une palette qui lui permet de naviguer sur tous les terrains. Voilà, il y aura des petites surprises. Je lui fais chanter, je la fais chanter en Milandais dans le... Voilà, il se trouve qu'elle a des origines portugaises et espagnoles aussi, et que voilà, pour elle, le fait d'intégrer ce groupe, ça lui permet aussi d'aller au plus proche de ses racines. Donc c'est fort pour elle également.
Qui c'est que jouait les cornemuses sur le...
Alors la cornemuse, c'est alors tu parles de alors au début du disque, c'est des super musiciens du coin qui sont des joueurs de cornemuse, de tambour, etc. qui lors d'une fête à Saint-Dim, à côté de Milind, un soir de Noël, quoi, de réveillon, comme le veut la tradition. Et à la fin du disque, c'est Florian Juillard, qui est un magnifique joueur de cornemuse et de bombarde, qui a été formé en Bretagne, qui a participé à plusieurs bagades, mais qui est capable de jouer du blues, de la musique contemporaine. Il est très très ouvert et il a une énergie phénoménal. Il y a Patricio Lisboa que j'ai présenté tout à l'heure à la contrebasse, mais il est multi-instrumentiste. Il joue aussi de la guitare dans un titre. Il joue du guembri, qui est une basse du Sahara, quoi, qui est jouée par les Touaregs, pour la musique Guanawa aussi, et de la basse électrique. Voilà. Il y a Guillaume Arbonville qui joue de la batterie et des percussions. Là, on se limite à peu de percussions, mais il a un panel extraordinaire. Et il y a aussi Maxime Perrin qui joue des claviers et de l'accordéon, qui est un excellent accordéoniste. Et je crois que je n'ai oublié personne.
Ben, j'espère bien pour eux. Voilà, cornemuse. On va trouver un instrument qui vient du Nord d'Afrique, etc. Comme quoi, la musique, c'est universel. Il n'y a pas de frontières. C'est étonnant. Parce que quand on parle des cornemuses, bon, d'accord. Mirande. Etc., etc., mais on va en Bretagne, on va en Écosse, on va en Irlande, on va dans un petit coin de la Hongrie. Oui. Donc c'est extraordinaire.
Et dans le Maghreb, on a la gaïta aussi. C'est un instrument vraiment universel. C'est c'est un réservoir d'air fait de peau d'animal, avec une pipe de bois et une hanche, et puis c'est tout, quoi. Évidemment, c'est très sophistiqué quand on va du côté des, de toute façon, je vais pas dénigrer le travail de luthier que font les fabricants de cornemuses, mais, les cornemuses écossaises qui sont peut-être l'aboutissement le plus précis, mais ça je parle sans vraiment connaissance de cause. Oui, bien sûr. Et ce qu'on voulait avec le guembri et les carcabous dans Fra il Cornudo, c'était le côté trans. Puisque il y a dans Fra il Cornudo peut-être une forme d'élucubration je dirais diabolique qui peut tourner un peu du côté, pourquoi pas, de l'érotisme.
Et ouais, mais on remet ça, c'est un chant traditionnel mirandais. Bon, comme ça on règle le problème. T'es pas venu tout seul, t'es venu avec une de tes compagnes, je crois. Elle est là juste ta gauche là.
Ouais, tout à fait. On va tout de suite éclaircir le truc pour que ma femme soit pas jalouse.
Parce que je pense que c'est pas la seule guitare qu'elle a. Donc je pense qu'elle a compris le sens.
Alors je vais chanter une chanson que j'ai composé il y a pas très longtemps, un peu à l'invitation d'un ami de Miranda qui m'a appelé en me disant il y a un branle-bas de combat, on est en branle-bas de combat à Miranda autour de la vente de nos barrages hydroélectriques, et ils sont vendus à la Chine et à l'Espagne, et les infrastructures à Engie
française,
en France, voilà, exactement. Et on ne risque pas de récupérer les impôts, alors que la région est complètement légitime pour récupérer le fruit des impôts. Et au bout du compte, c'est une région qui est en désertification. On est en train de lutter pour la culture milandaise, mais si la région est dépeuplée, il n'y aurait plus personne pour faire valoir cette culture-là. Donc j'ai écrit cette chanson qui s'appelle « Essa Guanan, Essa o Poésie ».
Tanto tempo a esperar que as águas do mar um dia subem para o monte. Tantas noites a sonhar dessa arca a voltar e de um novo dia no bico da pomba. Mas deixa correr, que ainda não é o tempo das regalias. Deixam morrer os que creem, mas nossa fé não é sebastianismo. Do que esse é que nos vai faltar para as candeias dos nossos lares, porque ela foi dar mais pinta ao rocio. Deixa correr, que essa água não é jamais para os nossos filhos. Deixamos de crer, já que eu próprio me enganei, que a fé é só democratismo. Águas que por aqui passaram também um dia levaram para o mundo o Vasco da Gama. No Tasco da Mama. Tanto tempo a esperar as águas do mar um dia subem para o monte. Tantos tempos a sonhar dessa arca a voltar e de um novo dia no bico da pomba. Deixa perder esse fruto e ver velhos irem para a agonia. Mas deixa-me-lhe dizer que essa água não é, não é só poesia. Thank you.
conhecemos, sou... costumava-se dizer, as gravuras não sabem nadar, mas as barragens devem continuar a falar português. Alors, je sais pas pourquoi j'ai enchaîné en portugais, mais enfin, Guillaume Simões, bonjour.
Oh, bon dit, je sais pas, on parle en français.
Oh, non, puisqu'on, avec Sceaux, on parle en français, on va continuer comme ça. Jean-Manuel Simões, alors, il va y être associé à H. Small. En réalité, il s'appelle Olivier. Hein, Olivier. Ouais. Bon, alors, ça mérite peut-être une explication. Donc, le samedi 1er octobre. À partir de 15h, c'est le grand soir, le retour. Ça, sur la péniche Grande Fantaisie, 3 quais de l'Oise, dans le canal de l'Ourcq. Le grand soir, le retour, c'est quoi le grand soir? Parce que normalement, quand on parle de grand soir, c'est la Révolution.
Là, c'est une religion, hein, puisque une religion, c'est une croyance, et nous, on est au-delà de la croyance, puisqu'on est, on a dépassé la croyance. Mais on va dire que c'est une religion dans le fait qu'on est capable d'aller au-delà de la fin de l'abondance, quoi.
Alors, il y a une association entre un plastique clown et un photographe. Alors, je lis, hein. Une installation ludique, artistique, festive et comestible autour des œuvres originales et déjà désormais célèbre vente aux enchères d'œuvres d'art. Donc, bon, qu'est-ce qui va se passer pendant... je ne sais pas combien de temps, parce que ça commence à 15h, je ne sais pas à quelle heure ça va finir.
Oh, bon, nous non plus. Nous non plus, on ne sait pas. On sait quand les choses commencent, on ne sait jamais quand elles se terminent. Quand on l'a fait la première fois, on ne savait pas qu'il y en aura un deuxième de grand soir. Donc là, maintenant, il y a un deuxième. Est-ce qu'il y aura un troisième, etc. Donc, on peut prédire une naissance. Est-ce qu'on peut prédire la mort? On sait juste qu'elle est certaine, c'est tout. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer samedi prochain? Eh ben, ce qui va se passer samedi prochain, c'est que on va donc Olivier et moi-même, on va présenter des choses qu'on a produites entre globalement entre le dernier grand soir et le samedi 1er octobre, et des choses qui vont être globalement, on appelle ça des œuvres, mais nous, c'est juste ce qu'on fait, quoi. Et puis, en parallèle de ça, parce que on est un peu, comment dire, on est un peu rebelle à la présentation très classique et conventionnelle des galeries où tout est accroché à la même hauteur, où il faut défiler, où, enfin, on voit les gens qui regardent ça un peu comme les belles et les vaches qui vont à l'abattoir, quoi, finalement. Donc là, on essaye de faire ça dans une ambiance plutôt festive et sympa, où, en effet, on peut voir des choses qui relèvent des arts plastiques ou visuels, au-delà de ça, d'ailleurs, tout en étant dans un esprit plutôt cabaret, puisqu'il y a des musiciens, il y a des performances, il y a un clown, il y a des acteurs qui, enfin des comédiens qui font des lectures, il y a du Prévert en musique, il y a du flamenco, il y a plein de choses. Quoi.
Des danseurs, des circassiens.
Danseurs. Absolument, et tout le monde peut participer puisqu'on est à scène ouverte. Hein.
Alors donc bon, savoir il y a un programme sans avoir un programme, quoi. On part à la découverte complète alors.
En fait, il y a un programme, parce qu'à un moment donné, vu qu'il y a quand même beaucoup d'amis qui viennent pour nous accompagner, que ce soit en musique, en chanson, en texte, etc., on a quand même un programme, puisqu'à un moment donné, il faut quand même que les choses s'enchaînent. Mais on n'est quand même pas sur des grilles fermées, quoi. S'il y a des choses qui doivent se passer et qui ne sont pas prévues, eh ben c'est génial.
Alors, Jean-Manuel Simões, on a vécu pendant pratiquement 2 ans, je dis presque incarcéré à un moment donné, donc on a besoin de cette liberté, c'est un petit peu le sens du spectacle que vous allez faire avec Olivier.
C'est complètement ça, c'est complètement ça, d'autant plus que je pense que les 2 ans sont pas terminés, loin de là. En effet, aujourd'hui... comment dire, on a fini les enfermements, les incarcérations, mais je pense qu'on est passé à une autre forme d'incarcération qui est beaucoup plus dangereuse, qui était, on en avait parlé déjà avec des amis dès le début, qui est le syndrome post-traumatique, qui est là, hein, d'ailleurs, on le sait, hein, toutes les officines de psychologues, de psychiatres, de psychanalystes sont tous saturés, ils refusent du monde, pas que en France, mais partout. Il y a ça, et puis après on continue dans l'univers anxiogène où on nous parle de l'Ukraine. Alors, heureusement, on ne parle plus du terrorisme, il n'y en a plus, mais il y a l'Ukraine en continu. Enfin, on est dans les mauvaises nouvelles entre l'Ukraine, Taïwan.
Les inondations au Pakistan, des milliers de morts, etc., etc. On pourrait continuer
voilà,
comme ça la liste.
C'est l'Iran. Donc voilà. Donc on est toujours dans cet univers hyper anxiogène. Donc voilà, le dernier soir, en fait, ça se passe sur une péniche, hein, donc c'est la péniche d'un ami, qui est le troisième qui est associé à l'aventure, Nourdine, que j'ai connu moi il y a 20 ans, puisqu'il était responsable photo au Monde.
Comme quoi, c'est passé par les deux journalismes, ça amène à tout.
Ça amène à tout, exactement. Donc voilà, donc en gros, ceux qui ont envie de, à un moment de s'évader, venez avec nous, on lève l'ancre pour un soir, pour une nuit, etc.
Alors, Jean-Manuel, Simon et je, on peut dire que ce qui va se passer le 1er octobre, je rappelle, c'est la péniche de la Grande Fantaisie, Canot de l'Ourcq, c'est un peu le prolongement de l'expo qui a été, je pense, le vernissage a eu lieu hier à Angers, je crois.
Avant-hier, c'était vendredi, le vernissage.
Oui.
Alors, à Angers, oui, en tout cas, c'est, on va dire que dans les expos, on retrouve complètement le même esprit de mon boulot. Olivier n'est pas à Angers, là, c'est un événement qu'on fait tous les deux le premier.
Le premier, ouais.
À Angers, on est dans un cadre qui est plus institutionnel parce que c'est un lieu d'expo dédié à l'art, enfin aux arts en général, etc. Donc on est plus dans l'institutionnel, mais on a exactement le même esprit, le même. Moi, je revendique complètement. C'était une carte blanche à Angers. Hein. Donc,
oui, c'était avec Mélanie Schall, c'est ça?
Absolument. Mmh. Donc c'est pour moi, c'est une carte blanche. J'ai fait absolument ce que j'ai voulu. Donc il n'y a pas de censure. Ça se voit. C'est le but. Moi, je me revendique d'être un peu le poil à gratter quelque part. Quoi. Donc, les gens doivent sortir d'une expo avec quelque chose de différent de quand ils sont rentrés. Quoi.
Eh ben, alors là, on va être gâté le samedi.
Eh ben, j'espère. En tout cas, c'est fait pour. Tout est fait pour.
Jean-Manuel Simon, je merci. Donc, je rappelle, le 1er octobre, à partir de 15h jusqu'à ce que les gens le voient bien. Sur la péniche Grande Fantaisie, 3 quai de l'Oise, le grand soir est de retour. Et quand je dis 3 quai de l'Oise, ça veut dire tout simplement Canot de l'Ourcq. Et une petite question, des fois ça fâche, l'entrée est payante?
Non, l'entrée est gratuite. Tout est au chapeau.
Ah, d'accord. Non, mais il faut le dire quand même les choses.
Et alors non, on est dans l'art abordable. La vente aux enchères se fait en unité de 1000, mais on compte en centimes.
D'accord. On revient au franc ancien, aux anciens francs.
Non, on est dans l'unité. Il faut pouvoir payer, mais on change d'unité. C'est personne peut se payer l'art. Il sert qu'à défiscaliser. Nous, on se revendique de quelque chose qui est accessible à tous. Et quelqu'un qui a envie de se faire plaisir peut, parce qu'on est quand même sur des sommes qui sont inférieures à 50 €, quoi.
Voilà, ça n'a rien à voir avec les patrons du CAC 40. Mais enfin, Jean-Michel Simon, merci. Merci, à très bientôt et on attend de vos nouvelles aux prochaines expos et tout. Mais déjà, rendez-vous à partir de 15h. Le grand soir va être de retour. Merci.
Merci à vous. Bonne
merci,
journée.
Au revoir.
Bonjour tout le monde. Au revoir.
Je vais dire au revoir.
Eh ben,
ce n'est qu'un au revoir.
Donc, à bientôt.
Le concert, ça sera le 30 septembre, 20h30, au théâtre de Bry-sur-Marne.
Voilà, organisé par l'association Guy Vaute de Bry-sur-Marne.
Voilà. Il faut le dire. Parce que, d'ailleurs, t'as toujours soutenu, et tu vois, t'as soutenu toujours aussi l'association Guy Vaute.
Oui, c'est un soutien.
Parce que tu fais partie des habitués qui vont aux rencontres mensuelles.
Ouais, c'est un vrai plaisir de me retrouver là-bas. Ouais.
Alors, une petite parenthèse, tout à l'heure avec Jean-Manuel Simon, et on a parlé de Covid, on a parlé de ceci, parlé de cela. Comme musicien, t'arrives à dépasser tout ce qu'on a vécu ou pas?
Bon, alors évidemment, c'est très variable, mais je dirais qu'il y a une organisation actuellement qui est faite ainsi, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient des tournées pendant la période du Covid ont eu leurs tournées reportées qui, justement, ont lieu actuellement. Si on n'avait pas de tournée pendant le Covid, tout est à reconstruire.
Oui, mais il faut des techniciens, il faut tout un tas, il faut monter, démonter le matériel.
Sûr,
donc il y a plein de monde qui a été mis au chômage.
Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est assez dramatique. On n'en parle pas beaucoup. Il y a quand même, en tout cas, ce que j'ai. Alors, quand je dis c'est dramatique, je ne sais pas si c'est réellement dramatique. On va mesurer les choses. Hein. Il y a les familles qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de toit, etc. Là, on est dans une situation dramatique. Là, quand je dis c'est dramatique, c'est que on attendait que des choses soient porteuses, et puis ces choses-là ne viennent pas forcément. On n'est pas forcément très bien soutenu, mais ce que je vois, c'est que le public, lui, il a besoin de sortir, il a besoin de retrouver, de se retrouver en tant que public, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, porteur d'une sensibilité. Et ça, je trouve que ça met du baume au cœur.
Tout à fait. Quand on dit qu'ils ont fermé les librairies pendant longtemps. Comme ça, à la culture, c'était pas un bien essentiel.
Exactement. Mais ce qu'on est en train de voir, puisque c'est intéressant ce que disait l'interlocuteur précédent sur les effets post-traumatiques, on est en train de dire maintenant, haut et fort, que l'une des conditions de vie de l'être humain, c'est sa fonction sociale, son aspect, sa dimension sociale. C'est-à-dire que si on le coupe de sa dimension sociale, et la dimension sociale, c'est tout ce qui nous réunit, depuis le religieux jusqu'au profane, et depuis le politique jusqu'à l'associatif, jusque à la famille, à l'amitié, à l'art, évidemment.
Bon, et la boucle est bouclée, mais pour ça, il faut qu'on soit actif aussi. So, merci, donc rendez-vous merci le 30 septembre au Théâtre de Bry-sur-Marne, réservé... Et pour ça, il y a un numéro de téléphone de 640. Oui, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur Facebook, vous allez retrouver tout ça. Ton disque, So, où est-ce qu'on peut le voir? On pourra le trouver déjà au concert?
Oui, bien sûr, à la fin du concert, il sera en vente. Et sur mon site, sous-paris.com.
Bon, de toute façon, on va y arriver. Oh, ouais. Merci, bon vent et bon concert.
Merci beaucoup. Merci.
Passagez-vous, et on est pratiquement à la fin, mais à la fin de quoi? Point d'interrogation. Déjà, on va faire une grande balade jusqu'au nord du Portugal. Terra Fria, Ana Maria Torres, bonjour.
Bonjour.
Alors, Terra Fria, aux éditions Lagrange Batelière. Alors, quand on parle justement de Ana Maria Torres, traductrice, vendeuse de livres et écrivaine aussi. Donc, tout est bon. Le livre, on dirait que ça vous... Hein, c'est un petit peu... Ça fait partie de vous?
Oui, ça fait partie de moi, en effet. C'est un essentiel de ma vie.
Alors, ce livre, je ne sais pas, bon, c'est de la prose, mais on dirait que c'est vraiment... C'est un poème d'amour par rapport à Terra Fria, c'est vrai? C'est un poème d'amour, ça, ce que vous avez écrit.
Un poème, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'est une déclaration d'amour... à cette région donc qui est une zone particulière de Trás os Montes qui est dans l'extrême nord de Trás os Montes à côté de Bragança. C'est donc là où mes parents, mes grands-parents, toute ma famille a grandi et où est ma vraie maison.
Alors il y a tout un tas de choses quand on voit bon le village, la maison, le fleuve, la récolte, la fête, le trésor, la peur, le retour. On dirait, je ne dis pas que chaque... ce que je viens d'annoncer, c'est 24 heures d'une vie, mais presque tout ça. On sent les pulsations du village, des gens et tout ça.
Oui, ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'à travers deux personnages, donc Madalena et Marta, donc une qui habite le village et qui décide de partir vivre en France, et l'autre qui vit en France et qui décide de revenir au Portugal, de montrer en fait saison après saison les diverses traditions, le quotidien en fait d'un village portugais, d'un village du nord du Portugal. Donc à travers des événements qui pour moi sont un peu représentatif de l'année dans un village, que ce soit les récoltes, que ce soit la fête du carnaval, la fête de l'été où il y a la fête du village avec les processions, ou bien sûr la récolte des pommes de terre, des oliviers, c'est tout des micro-événements qui font le quotidien d'un village au Portugal.
Alors, celle qui vient de France, elle aime même la musique pimba.
Oui, elle me déprime parce que c'est vrai que quand on pense au Portugal, en fait, en France surtout, on pense tout de suite au fado. Et le fado, c'est surtout une musique du sud du Portugal, de Lisbonne, qui bon, maintenant on l'entend, on entend des concerts de fado partout au Portugal. Mais pour moi, je sais que mes souvenirs de vacances et mes souvenirs d'enfance, c'est beaucoup lié au pimba parce que c'est la musique des fêtes d'été et c'est beaucoup de la musique aussi des immigrants portugais qui, quand ils rentrent en France, achètent des cassettes et maintenant achètent des CD aussi de musique à pimba qu'on écoutait après dans la voiture du retour. Donc pour moi, c'est une musique aussi de... Je voulais aussi montrer au public français qu'il n'y a pas que le fado, qu'il y a aussi cette musique très populaire du pimba qui reflète une certaine identité portugaise.
Mmh. Oui, d'autant plus que normalement c'est la fête du village. Donc la fête de la paroisse, ceci ou cela, est toujours une bonne excuse pour faire la fête au Portugal, heureusement. Mais souvent ils attendent le mois d'août pour faire ces fêtes-là parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont revenir au village, vont revenir au pays.
Oui, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage, c'est que c'est la question du retour et du départ, parce que c'est aussi ce qui rythme la vie de ces villages-là dans le nord du Portugal. C'est que c'est des villages qui sont très très remplis l'été, où c'est la vie, où c'est l'animation, c'est la fête. Et après, une fois que les immigrants partent, il y a le silence qui revient avec les personnes âgées qui restent là-bas et qui vivent toute l'année, les jeunes qui repartent dans les grandes villes pour aller faire leurs études. Et c'est ça aussi que je voulais montrer, c'est qu'il y a une temporalité différente en fait dans ces villages où il y a la vie qui reprend à l'été comme si en fait le village se ranimait. Et une deuxième vie qui existe et qui est très importante, mais qui est plus silencieuse, plus discrète, plus secrète, hors été, quand c'est les autres saisons comme l'automne ou comme l'hiver.
Alors, à propos de saison, justement, et pas seulement, même dans la journée, parce que avec tous les événements, les choses qu'on raconte, etc., donc on voit la vie, entre guillemets, on a des odeurs, on a des sensations, donc c'est pas évident de le faire quand on écrit.
Pour moi, c'était très important parce que moi, l'image que j'ai voulu créer de ce village portugais, c'était l'image que j'avais de mon enfance. Parce que pour moi, c'était le retour au pays, c'était quelque chose de très important. Je pense comme tout fils immigré ou comme tout immigré portugais quand ils rentrent voir leur famille. Et moi, ça passait beaucoup par les yeux, par le regard, par les odeurs, par les sons et par la langue. Donc pour moi, c'est important de décrire aussi cette odeur particulière quand on arrive au Portugal, quand on sent le goût aussi, la nourriture qui est complètement... Moi, je sais que quand je mange portugais en France, ce n'est pas le même goût, ce ne sont pas les mêmes saveurs que je peux retrouver dans mon village. Et pour moi, donc, c'est important de faire vivre un maximum au lecteur ces sensations-là, de l'emmener avec moi dans le village et qu'en lisant le texte, il arrive en fait à se projeter et à sentir, à écouter, à vibrer, à ressentir vraiment ce qu'un village peut révéler dans toutes ses saveurs, dans toutes ses couleurs et aussi je voulais en fait à travers les odeurs et les goûts et les sons faire parce que tout le monde n'est pas portugais, je pense que les personnes qui le rendent ne sont pas forcément familières avec ce village, mais qui eux-mêmes se remémorent, parce qu'on vient tous d'un village, on a tous des origines qui ne viennent pas des grandes villes, de se remémorer aussi leur village à eux, leur village à eux, leurs émotions, leurs premiers goûts, leurs premières émotions avec leurs grands-parents, avec la nature. C'est important pour moi de faire ça.
Et même en ville, je peux vous assurer, je parle de Lisbonne, que je connais, c'est pas Lisbonne, ma ville, c'est mon quartier. C'est très important. Mais alors, Ana Maria, je cite, « Aujourd'hui, j'écris sur un pays qui n'existe plus. Est-ce que quand on va au Portugal, on va rechercher un certain nombre de choses, on va en quête de quoi ? D'un passé ? Bon, on ne va pas en quête du passé parce que le passé, ce n'est pas premier qu'il y a eu l'immigration, qu'il y avait la misère, il y avait la pression fasciste, etc., etc. Mais on va dans un pays qui n'existe plus, ou est-ce qu'il existe uniquement dans notre pensée, dans ce que nous, on sent.
Pour moi, c'est un pays qui n'existe plus dans le sens où, bah, oui, c'est un pays de, déjà, c'est mon pays, le pays de l'enfance, et l'enfance, c'est fini, je ne suis plus un enfant, donc, alors oui, l'enfance, c'est fini, c'est un pays des souvenirs, un pays qui pour moi n'est plus le même, parce que le Portugal qui était, le Portugal de mon enfance n'est plus le même que le Portugal maintenant que je vis au quotidien, maintenant, en tant qu'adulte, quand je vais chaque été voir ma famille, ce n'est plus la même chose que quand j'étais... maintenant, je passe moins de temps là-bas. Quand j'étais petite, je passais un mois, deux mois. J'étais avec mes grands-parents, j'étais avec ma famille. J'avais aussi ce temps de l'enfance où on pouvait vadrouiller sans peur ni crainte et expérimenter les choses. Et c'est aussi... Moi, je trouve qu'après, depuis ces dernières années, surtout avec le tourisme qui s'est beaucoup développé, ça devient aussi un Portugal différent, c'est un Portugal qui est moins secret, qui est moins caché, où il y a maintenant beaucoup plus de touristes qui apparaissent. Donc, ce qui fait que c'est... oui, pour moi, ce n'est plus le même Portugal. Et donc, j'avais envie quand même de pouvoir cristalliser, de pouvoir préserver, de ne pas oublier en fait le Portugal de mon enfance, celui qui est ma maison, qui est propre à mes traditions et de pouvoir en fait le garder quelque part. Et donc c'est le livre, pour moi, c'est une manière de le figer dans le temps et de faire en sorte que ces souvenirs là de cette époque, qui est bon l'époque des années 90 au Portugal, 90-2000, soient encore prégnants et soient encore existent en fait.
Voilà, et c'est très important parce que la façon qu'on vous écrit, vous n'êtes pas saudosiste, comme on dit en portugais. Ana Maria Torres, merci. Donc, je rappelle Terra Fria aux éditions La Grange Batelière. Et à propos de Ana, c'est un mot passe-partout, un mot qui peut se lire dans les deux sens. Très important. Ana Maria Torres, merci. Et à très bientôt.
Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup.
Au revoir. Bom, acabou praticamente a emissão deste domingo, dia 25. Obrigado ao Jorge Leandro. Esperamos estar aqui na próxima semana, a partir das 12. Lembro, Passagem Nível, que tem a redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. E depois, no início da semana, amanhã ou depois, poderão ouvir igualmente a emissão em podcast. E, por que não, Jorge, um cheirinho de Ângela da Silva... É um poema da Flor Bela Espanca, falamos em instantes, cerca de uma hora, do Fernando Pessoa. Bem, Ângela.
Amar a flor em mim, alma do meu jardim, és como Deus, princípio e fim, nos versos que te fiz, traços de um. Da flor de lis. Amar-te assim se fez razão do meu viver. Sou tua loucura e a vida em mim. Importa as ilusões na terra de barões. Ser um só grito és poeta de pamonha. Ha!